Face à Duhamel ce soir, avec Alain Duhamel, bien sûr. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Et nous sommes avec l'essayiste, le philosophe Michel Onfray. Bonsoir Michel Onfray.
Bonsoir.
On va continuer de discuter de la réforme des retraites, de sa contestation. Alors, le débat n'est pas encore terminé, Alain Duhamel, mais quel parti politique pourrait être le bénéficiaire de cette séquence, alors ?
Pas la majorité ni Emmanuel Macron, puisque ils pensent que les uns comme les autres que la réforme est nécessaire et ils croient qu'ils donnent la bonne réponse. Bon, on peut en discuter, mais donc ils sont forcément dans la position d'accusé et ils attirent à eux l'impopularité que d'ailleurs on mesure dans la rue, dans les sondages, partout. Donc pas eux. Ça peut pas être non plus les Républicains, parce que les Républicains se ridiculisent. En critiquant la réforme qu'ils ont proposée pendant 20 ans et en se divisant de façon inintéressante. Les socialistes défendent une position à laquelle, au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas. Bon, ce n'est pas la première fois de leur histoire, mais enfin, c'est, disons, un moment un peu symbolique. Les écologistes, on n'en tient pas un très grand compte dans cette histoire. Donc, en fait, il reste deux possibilités. Qui est le bénéficiaire ? Ça peut être... soit les Insoumis, soit le Rassemblement National. Ils emploient des techniques exactement opposées. Les Insoumis multiplient les incidences, se présentent comme des provocateurs, etc. Et au contraire, le Rassemblement National se veut discret, discipliné, jouant le jeu parlementaire de la façon la plus classique qui soit. Si je voulais être un caricaturiste, que bien sûr je ne suis pas, je dirais que, d'une certaine façon, c'est les braillards contre les hypocrites. Bon, qui en profitera le plus, les Tartuffes ou les braillards ? Ben moi, je pense que ce sera les Tartuffes. Je pense que c'est le Rassemblement National dont les positions sur les retraites sont aussi absurdes que les autres, mais qui ont l'intelligence de se comporter en opposant parlementaire jouant le jeu. Bon, ben, je crois que ça sera beaucoup mieux reçu que les outrances et véhémences des Insoumis.
Michel Onfray.
Moi, je ne pense pas en termes de parti. Je pense que les partis font leur métier de parti, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand souci des gens. Ils sont juste dans la boutique. Parce que finalement, quand les socialistes, vous l'avez dit Alain, mais je veux dire, quand les socialistes sont contre un projet qui a été le leur pendant des années, ce sont des gens qui pensent qu'il faut effectivement travailler plus. Quand ils sont au pouvoir, ils défendent les thèses de Macron, et quand ils sont dans l'opposition, ils défendent des prétendues thèses qui sont celles de Mélenchon, qui lui est sur des logiques aussi partidaires. Je pense que ce sont les partis politiques qui font leur tambouille pendant que ce sont les Français qui prennent. On voit bien que les Français souffrent, que les Français aimeraient qu'on travaille moins, différemment, autrement, et que les partis politiques n'en ont rien à faire. On voit que l'Assemblée nationale aujourd'hui montre une espèce de tropisme 4e République. Et pas du tout l'esprit de la nation dans l'esprit du général de Gaulle, c'est-à-dire est-ce que c'est bon pour la France, est-ce que c'est bon pour les Français ? Pas du tout. Est-ce que c'est bon pour le petit business du parti qui va dire « Ah mais nous on est pour, mais là on est contre parce que celui-ci est pour et on ne peut pas être pour en même temps que lui, sinon on va faire le jeu d'eux ». Ceci, on va faire le jeu d'eux, cela, etc. Moi, je pense que c'est pas la démocratie qui s'en trouve grandie. Ce sont les partis qui se trouvent au devant de la scène. Et c'est la pire chose qui puisse arriver à la France, que ce soit des enjeux de partis, des enjeux partidaires, et qu'on oublie la France et les Français.
Alors, pardon, un instant pour que les choses soient plus claires. Mais vous en pensez quoi, cette réforme, en quelques mots? Des retraites.
Moi, je suis contre. Moi, je suis toujours sur des positions de gauche, contrairement à ce que dit la gauche libérale. Et je suis pour la retraite à 60 ans, même pour certains très en deçà encore. Je pense qu'il faut repenser la question du travail, repenser la question du syndicalisme. Parce que si la gauche voulait travailler, ça la changerait. Mais si elle voulait vraiment travailler, elle pourrait penser la question du travail. Ça, c'est modifié.
Partout ailleurs, c'est au-delà de 62, 63, 64, 65 même.
Non, c'est au-delà de 65.
Pas partout, mais
je suis quasiment partout. On peut parler du Zimbabwe si vous voulez aussi.
Non, en Europe, je parle d'Europe.
Et l'Europe, c'est quoi ? Pour moi, c'est moins important que la France. Donc, je pense que le problème, c'est pas de savoir ce que la Belgique fait ou ce que éventuellement le Portugal fait. C'est pas mon propos, c'est pas mon regard. Mon regard, c'est la France. Pendant très longtemps, heureusement que la France n'a pas regardé ce que faisait le voisin pour pouvoir être ce que la France est devenue. Heureusement que le général de Gaulle n'a pas regardé ce que faisaient les voisins le 18 juin 40. Heureusement que pendant la Révolution française, on n'est pas allé voir ce que pensait l'Autriche des droits de l'homme, par exemple. Donc, il y a un moment donné.
L'espérance de vie est la même partout en Europe, c'est ça que je veux dire.
Non, oui, mais elle est plus élevée en France.
En Italie.
Non, puis c'est pas
oui,
une question.
En France, elle est plus élevée que la moyenne.
Non, mais la question de l'espérance de vie, c'est une question de quantité de vie. Moi, je parle de qualité de vie. Vous pouvez vivre jusqu'à 100 ans, mais si c'est en mauvais état depuis l'âge de 60 ans, qu'est-ce que ça veut dire être centenaire? Donc, il y a un moment donné où il faut arrêter de penser en termes de chiffres, de nombres, en disant, mais on vit plus longtemps, donc c'est formidable. Non, on vit beaucoup plus longtemps dans un mauvais état. Donc, il y a un moment donné où il faut arrêter de croire que, parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler pour longtemps, ce qui voudrait dire que les hommes ne sont que par le travail qui est le leur. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Donc pensons-le autrement, pensons le loisir autrement que sur le terrain de la paresse. L'alternative, ce n'est pas le travail ou la paresse. Ressortir la fin sans l'avoir forcément lu, et parce qu'il y avait de l'ironie.
Vous médusez Alain et Olivier qui, du coup...
Non, mais c'est important de savoir ce que Michel pensait réellement de la réforme des retraites pour en débattre ensuite et parler du RN.
J'adore
Alain
vous méduser, j'adore vous méduser.
Allez, Alain, vous nous médusez également, allez-y.
Alors, d'abord, en ce qui concerne le général de Gaulle, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et que j'essaye de regarder comme tous les personnages historiques, c'est-à-dire tel qu'il était, tel qu'il faisait, et pas simplement tel qu'on le mythifie, quand il est revenu au pouvoir, la première chose qu'il a faite, et il a eu raison à mes yeux, ça a été d'imposer une réforme économique libérale immédiate. Et pourtant, la France n'était pas en mauvais état économique. Elle était en état politique désastreux, elle était en état moral plus qu'incertain, elle n'était pas en mauvais état économique. Mais il a pensé que si on voulait être une grande nation, il fallait faire bien davantage. Et il l'a imposé. Et il l'a imposé pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, quand il est revenu au pouvoir, les Français étaient tellement déstabilisés par la guerre d'Algérie, par la médiocrité du Parlement, etc., qu'il a eu les mains libres pendant quelques années. Ça lui a permis d'ailleurs de mettre fin à la guerre d'Algérie, entre autres choses. Mais il a pris des mesures sévères, d'inspiration libérale qui ont marché.
Vous voyez la contradiction qu'il y a dans ce que vous dites, imposer le libéralisme, qui est un libéralisme sévère, mais, imposé par l'État.
Oui.
Il n'était pas un libéral. Il était libéral en matière d'économie.
Oui, c'est ce que je dis.
Mais pas sur le reste.
Je ne dis pas ça du tout.
Sur l'économie, en disant que l'intendant suivant, c'était au patron d'obéir à l'État et pas à l'État d'obéir au patron.
Je ne suis pas en train de dire que c'était un libéral dans tous les domaines. Je ne parlais que d'économie, j'étais bien clair.
Pour relancer la...
Et en 58, mais l'économie allait bien. En 57-58, l'économie allait bien. Il a pensé qu'il fallait faire davantage mieux avec de plus grandes ambitions nationales. Bon, très bien. Quand Emmanuel Macron lance sa réforme, moi, je ne crois pas du tout à la thèse selon laquelle c'est par narcissisme, parce qu'il pense à sa place dans l'histoire, etc. Je pense qu'il croit sincèrement qu'il faut une réforme. Est-ce que c'est la bonne ? Bon, moi j'ai toujours dit que je préférais la réforme par points, que je trouvais à la fois beaucoup plus généreuse parce qu'universelle, très difficile à mettre en œuvre, je le reconnais, et en même temps beaucoup plus responsabilisante pour chaque individu, ce qui me plaît bien, parce que j'aime bien que les gens choisissent eux-mêmes, dans la mesure du possible, leur destin. Mais bon, donc je ne suis pas un défenseur de cette réforme, je ne suis pas sûr que c'est la réforme idéale, je suis même certain que ça n'est pas la réforme idéale. Mais en revanche, je ne crois pas, comme vous le disiez, qu'au Parlement, ce soit une espèce de théâtre d'ombre ou de comédia dell'arte où chacun joue un rôle. Je pense qu'il y a une part de théâtre, comme il y a toujours dans tous les parlements du monde, hein. Il y a une, et dans toutes les, vous qui êtes philosophe, dans toutes les représentations politiques, il y a toujours une part de théâtre. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. La NUPES, je trouve leur proposition totalement irréalisable, et je trouve leur idéologie fantasmatique, mais je suis persuadé qu'ils y croient. Ils sont sincères et ils pensent que ce qu'ils disent, ils le disent pour le bien du peuple. Alors, le Rassemblement national, c'est la même chose. Je pense que leur proposition de réforme, dont ils ont l'intelligence de ne pas parler pendant tout ce débat, vous remarquerez à la différence d'autres.
Que Michel puisse vous répondre.
Mais non, c'était plutôt
vous
moi qui étais
en train
de lui répondre.
Vous aviez commencé en premier, vous avez déjà un coup d'avance,
non, d'accord,
Alain Duhamel.
Je suis prêt à mesurer les temps de parole.
Mais c'est quand vous voulez, je les ai sous les yeux. Allez-y, Michel Onfray.
Non.
Peu importe. Mais,
allez-y.
Mais j'ai perdu le sens de ce que je voulais dire. Vous parlez de l'Assemblée nationale. Je pense que...
Oui, je disais qu'il y avait une part de théâtre, mais une part de sincérité.
J'entends bien, mais on voit bien que tout le monde est obsédé par la présidentielle. La prochaine présidentielle, c'est déjà reparti. On sait que Macron ne pourra pas se représenter. Les partis politiques savent très bien que puisque l'Assemblée nationale n'est pas à sa main, il reste à Emmanuel Macron la possibilité de dissoudre. ils sont toujours dans la crainte que ça puisse arriver, en se disant, mais si ça arrive demain, qu'est-ce que ça va donner pour mon parti, en sachant que je me présente aux prochaines présidentielles, je pense à Marine Le Pen, et je songe aussi à Mélenchon. Et donc voilà des individus qui n'ont pas le souci de la France, qui n'ont pas le souci de l'intérêt général et du bien public, juste des gens qui se disent, mais pour la boutique, qu'est-ce qui est bon pour nous ? Et donc, oui, il y a ce cirque, mais il y a une époque où il y avait du cirque, mais en même temps, il y avait quand même l'intérêt général. Quand il y avait justement le général de Gaulle, il y avait cette idée que c'est effectivement le capitalisme qui est le mieux placé pour produire des richesses, mais c'est quand même l'État qui est le mieux placé pour répartir ces richesses. Oui. Donc, on peut être dans la logique du général de Gaulle, c'est-à-dire dire, allez-y pour le libéralisme qui vous permet de produire des richesses, mais l'État sera là pour répartir les richesses. Est-ce qu'il y a des soucis de politique haut de gamme de
le
cette manière-là?
Le système de par-répartition, c'est pas un système capitaliste, c'est plutôt un système justement de répartition des richesses.
On a changé de monde.
Vous devriez le défendre.
On a changé de monde. Les gens qui estiment que en matière de laïcité, il faut aller voir en 1905, et puis en matière de droit du travail, il faudra aller voir au Front populaire, etc. Sont des gens qui ont juste oublié que depuis, il y a le télétravail, il y a la possibilité, il y a pour les femmes la possibilité d'accéder plus au travail que ça n'était le cas jadis. Il y a la possibilité d'avoir des travaux précaires. Enfin, toutes ces choses-là qui sont susceptibles d'être pensées et qui ne sont pas pensées. Donc moi, je suis pour le fait qu'on puisse trouver d'autres répartitions, d'autres modes de répartition, parce qu'il y a l'informatique, parce qu'il y a les ordinateurs, parce qu'il y a les robots, et que effectivement la force de travail n'est pas taxée quand il s'agit des robots. Et quand on avait des gens qui travaillaient, on pouvait les taxer. On ne taxe pas aujourd'hui les robots, par exemple, ou tout ce qui est aujourd'hui système informatique.
Ça a même été proposé par Bill Gates de taxer les robots.
Mais bien sûr, mais il a raison. Tous ces gens des GAFAM le savent bien que le travail a complètement changé. On est resté sur des logiciels des années 50, un peu par ma faute si je parle du général de Gaulle, mais je veux dire qu'on est resté sur des logiciels des années 50 concernant le travail, qui n'est plus du tout le même. Donc si on veut aujourd'hui repenser le travail et repenser des nouveaux modes de répartition de richesses pour faire de telle sorte que des jeunes puissent faire des études longtemps et entrer dans le monde du travail tardivement, mais disposer tout de même d'une retraite, tout ça, ça se pense. D'abord, on a des idées, et ensuite, on cherche l'intendance. Là, on n'a pas d'idées. L'intendance, elle est juste là pour faire de la politique politicienne.
Alain Duhamel.
Bon, alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a un, est-ce que... En France, aujourd'hui, et contrairement à ce qui se passait autrefois, est-ce que l'État est en train de renoncer à son rôle ? Non. La France est... tous les sociologues, tous les économistes le reconnaissent, qu'ils soient pour ou contre notre système. La France est, en Europe, le pays dans lequel l'État a le rôle le plus important. Bon, il suffit un instant de penser à ce qui s'est passé pendant le Covid. L'État...
C'est le seul moment.
Non, c'est pas le seul. En tout cas, c'est un bon exemple.
C'est un bon exemple, et je reconnais
de
faire référence à ce
oui,
moment-là.
Oui, il faut toujours choisir le meilleur exemple.
Mais ajoutons que quand Macron trouve que l'État est formidable, c'est juste pour pouvoir travailler dans le sens de l'effacement de l'État plus encore. S'endette, il endette la France, et il engage plus à fond dans l'Europe maastrichtienne, c'est-à-dire dans la négation de la destruction de l'État français.
Je ne crois pas du... Alors... Bon, vous dites tellement de choses intéressantes qu'il faudrait vous répondre sur beaucoup de plans en même temps. Je ne crois pas du tout que son idée soit d'un État en retrait qui devrait être un État spectateur au milieu de tout ce qui se passe dans le monde. Je ne pense pas du tout. Je pense que c'est même exactement l'opposé. Alors, on peut tout à fait discuter des choix qu'il fait et de la manière dont il s'y prend, bien entendu. Mais il n'a pas du tout dans l'idée d'effacer l'État au bénéfice de forces qui, dans la réalité des choses économiques, viendraient d'ailleurs que de la France. Je crois que c'est même dans sa tête absolument le contraire.
C'est plutôt de la France que la
France. L'autre chose, vous disiez, et vous avez raison de dire sur ce point, en tout cas à mes yeux, que le travail est en train de se métamorphoser complètement. Ouais. Je suis d'accord. C'est l'évidence que le travail est en train de se métamorphoser. Est-ce que ça signifie que les structures sociales, les protections sociales, les aides sociales sont en train de s'effondrer ? Non, ça n'est pas vrai. La France reste, heureusement d'ailleurs, un pays qui est extraordinairement, et un État qui est extraordinairement protecteur. Et quant au travail, oui, il est en train d'évoluer. Oui, c'est tellement nouveau. Et surtout tellement universel que ça implique l'invention de nouvelles règles. Et que ces nouvelles règles, c'est vrai qu'elles n'existent pas. Mais je veux dire, vous savez bien ce qui s'est passé au moment de la révolution industrielle à la fin du 19e siècle. Il a fallu réinventer des règles. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si toutes les législations du travail, des syndicats, etc., ont émergé à ce moment-là. Mais là, c'est la même chose. Il faut réinventer un système législatif. Là, mais il faut du temps pour ça.
Pour avancer, là, il y a quand même...
Oui, on avance. Hein.
Oui, oui, mais là, on était sur Général de Gaulle, on va aller un peu plus rapide. Là, il y a des contestations sociales, de nouvelles dates qui sont programmées. À partir du 7 mars, les syndicats veulent durcir le mouvement, parlent de journées mortes, de grèves reconductibles. Mais pour l'instant, Emmanuel Macron ne cède pas. Que va-t-il se passer selon vous ? Est-ce que Emmanuel Macron a raison de ne pas céder ?
Je pense qu'il y avait une première stratégie qui était réunion générale de tout le monde, un peu dans l'esprit de la CFDT, en disant on retrouve la vieille tradition, je ne vais pas dire anarcho-syndicaliste, mais enfin un peu social-démocrate. Et d'une certaine manière, la CGT avait dit oui, allons-y dans un premier temps. Dans un second temps, il voit que ça ne marche pas, il dit on va passer à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, ça va être ça. Chacun aura constaté que les manifestations passées n'ont pas été émaillées de violence. Il n'y a pas eu de brutalité, il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu de problème de ce type-là.
Ni de part ni d'autre, d'ailleurs.
Absolument. Mais ça vient souvent des mêmes. Je veux dire que c'est pas la police qui déclenche les échauffourées. La police, elle fait le nécessaire pour les arrêter. Et ça commence d'un côté, et là, ça ne commence pas. Bon service d'ordre, probablement, CGT, CFDT, formidable, bravo. Et c'est très bien. Je pense que Martinez a raison de dire, mais si vous ne nous entendez pas, on va parler plus fort. Et il va y avoir effectivement un deuxième temps. Et on va voir à ce moment-là quand s'engagera véritablement le rapport de force. Là, je pense que les armées se regardent, elles se font face, chacun se toise, avec Macron qui symboliquement s'arrange toujours pour ne pas être là, en disant « faites vos manifestations, moi j'ai autre chose à faire, je m'occupe du monde ». Donc je suis en Espagne à faire des choses bien plus importantes que vos histoires de retraite.
Ah là, il a reçu quand même le président ukrainien, c'est pas rien.
Non, puis un traité d'amitié avec l'Espagne, c'est important aussi. Le général de Gaulle, une des premières choses qu'il a faites, c'est un traité d'amitié avec les Allemands.
Mais il y a des...
Alors, en général de Gaulle.
Vous savez très bien que le symbole est important. Et à un moment donné, quand vous faites savoir que vos préoccupations ne sont pas là...
C'est quoi, c'est le Premier ministre qui défend le projet?
Oui, mais pourquoi il le défend, le projet, le Premier ministre? Parce qu'il ne veut pas s'exposer, parce qu'il y a un moment donné...
Parce
où
qu'il est Premier ministre.
Non, mais parce qu'il y a un moment donné... Mais il a bien compris ce qu'il y avait d'intéressant dans le général de Gaulle et la Constitution, c'est-à-dire le président préside, le gouvernement gouverne. Je laisse gouverner, je vais voir jusqu'où ça va, et puis peut-être à un moment donné,
je sortirai
de manière jupitérienne,
ou
martienne, de Dieu Mars, hein, pas de... Mais, et puis à ce moment-là, oui, je trancherai, mais je pense qu'il n'a plus rien à perdre, puisque finalement, il ne sera pas réélu comme président de la République. On peut imaginer que... Dans sa tête, la suite, c'est la présidence de la Commission européenne.
Non, non.
Non, non. La preuve reste à apporter. Je dis simplement que si c'est le cas, il est en campagne pour ce nouveau poste. Et que cette campagne, elle se fait aussi contre les travailleurs, contre les ouvriers, contre le peuple français, en donnant des gages à l'Europe maastrichtienne et en disant, vous avez vu, je ferai un excellent chef de cet État.
Alors, moi, je n'y crois pas du tout.
Ça ne m'étonne pas.
Non, mais attendez, de toute façon, chacun ses convictions. De toute façon, il n'est pas question qu'il soit président de la Commission. Si c'était quelque chose, ça pourrait être président du Conseil européen, c'est-à-dire du Conseil des chefs d'État, etc. Bon, il n'a aucune chance, parce qu'il défend une conception à la fois de la souveraineté européenne et de la souveraineté française, et les deux choses déplaisent à nos partenaires européens, on le sait bien. Ils ne veulent pas d'une souveraineté européenne, alors que nous, on voudrait une Europe qui, par exemple, face aux États-Unis, soit capable d'être plus exigeante, plus dynamique, mieux mobilisée, alors qu'elle en a les ressources. Elle a des ressources équivalentes. Hein. Et elle ne le fait pas, ou elle le fait lentement, ou elle le fait à contre-cœur, comme d'ailleurs, on le voit, et on va le voir aujourd'hui et demain, hein, au Conseil européen qui était prévu pour ça. Il y a Zelensky en plus, mais il était prévu pour ça. Bon, et d'autre part, je ne crois pas du tout que son horizon soit l'horizon de la responsabilité européenne. Je ne sais pas ce qu'il fera plus tard, il ne le sait peut-être pas lui-même, probablement pas.
Il a probablement
un avis. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que je pense qu'il est sincèrement convaincu qu'il est important de faire une réforme. Je ne suis pas certain qu'il ait choisi la meilleure voie.
Évidemment, l'Europe lui demande.
Ensuite, puisque vous disiez à juste titre...
L'Europe lui demande.
Pardon ?
L'Europe lui
demande cette réforme.
Non, mais
elle l'a demandé aux socialistes, comme depuis 1992.
Non, mais il n'y a pas besoin de l'Europe pour savoir qu'il y a un problème démographique qui existe et qui va prendre de l'importance. Il n'y a pas besoin de l'Europe pour savoir qu'on est dans une période de crise économique qui est difficile et incertaine. Il n'y a pas besoin de l'Europe pour savoir que la Russie a envahi l'Ukraine, etc. Donc, tout ça, bien sûr que c'est nouveau. Bon, c'est nouveau, c'est vrai qu'il faut, d'une certaine manière, réinventer des réponses. Oui, ça c'est vrai. Lui, il essaye de donner des réponses. Ces réponses, en ce qui concerne par exemple la réorganisation du travail aujourd'hui,
merci, messieurs.
Évidemment, ça demandera plutôt des décennies que des mois.
Merci Michel Onfray, j'espère qu'on vous retrouvera dans un autre Face à Duhamel. Vous reviendrez, j'espère. Merci Alain Duhamel.